Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc on va vous présenter la revue Fatheon avec ses principaux instigateurs. On va vous expliquer justement la genèse de ce livre, pourquoi ce livre, et puis évidemment ce qu'il raconte. On va commencer avec Bérangère Pont, qui est donc responsable de la maison d'édition Lire des Marges. Vous allez nous expliquer justement pourquoi Lire des Marges, comment est née cette revue, Bérangère.
Alors bonsoir, et puis effectivement merci d'être venus aussi nombreux. Je voudrais aussi pour commencer remercier la librairie Mola de nous accueillir ici pour la présentation de cette revue. Alors Lire des Marges est une maison d'édition de littérature contemporaine qui est née en 2012 et les premiers livres sont sortis en février 2013. Donc on publie essentiellement des romans, du théâtre, de la poésie et puis toute forme d'expérience d'écriture aussi. Aujourd'hui nous avons 9 titres à notre catalogue et donc cette revue. Voilà, ce qui est important pour nous c'est effectivement d'avoir des choix assez éclectiques, c'est-à-dire de montrer toute la diversité de ce qui peut s'écrire actuellement, et puis une attention toute particulière portée sur l'objet du livre, puisqu'on essaie vraiment dans le choix du papier, dans la manière de le faire, dans son aspect. Voilà, ils sont cousus, la plupart de nos livres sont cousus avec un fil de lin rouge. Donc, voilà.
Et comment est née l'envie de créer cette maison d'édition ?
Oh bah c'est assez simple, hein, en général.
La Parce littérature que c'est une association derrière.
Oui, alors il y a un collectif, effectivement. Moi, c'est une envie que j'avais depuis assez longtemps, puisque j'ai un petit peu travaillé dans l'édition, en librairie avant. Et puis, j'ai eu envie, effectivement, de porter des textes qui ne trouvaient pas forcément leur place chez d'autres éditeurs. Et puis voilà, c'est né comme ça. Et après, effectivement, il y a tout un collectif de gens qui ont envie de s'associer à ce projet. Et c'est comme ça que nous avons monté Lire des Marges.
Et si on doit définir en quelques mots, justement, la marque de fabrique de Lire des Marges ?
La marque de fabrique de Lire des Marges, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire effectivement l'éclectisme, c'est-à-dire une grande ouverture à différents types de textes, d'expressions. C'est vrai que la question qu'il y a un peu derrière, c'est celle de la ligne éditoriale, qui est une question qui revient toujours, mais moi j'aime bien me référer à François Maspero, qui était quand même un grand éditeur, et qui disait la ligne éditoriale, c'est un peu une drôle de question. Je crois qu'il le disait plus familièrement que ça. D'ailleurs, il disait c'est un peu de la foutaise. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, cela dit, mais loin de là. Mais il disait parce que finalement, on ne veut pas s'interdire de choses. On a envie de publier des textes qui nous plaisent, quelle que soit leur diversité, etc. Et puis la ligne éditoriale, c'est 10 ans plus tard, on regarde les livres qu'on a publiés et on se dit bah c'est à cette couleur-là, voilà. Et
s'il y a des gens, par exemple, dans la salle qui ont envie d'écrire un livre pour Lire des Marges, quel est le... Il n'y a pas de profil type, hein, mais quel est le conseil qu'on peut leur donner justement pour que ça corresponde.
C'est toujours bien de voir ce qu'on publie pour, effectivement, c'est vrai que, bon, a priori, pour l'instant, on ne publie pas de livres de recettes de cuisine, on publie de la littérature, effectivement. Après, ça reste très, très ouvert, c'est un collectif, donc ça aussi, ça montre toute la diversité de ce collectif, si on n'a pas de fonctionnement autocratique, donc s'il y a quelqu'un qui est très attaché, qui apporte un manuscrit et qui dit ça j'ai vraiment envie de le défendre, eh bien on y va, quoi, voilà.
Et ce qui vous a séduit dans le projet de la revue Fatheon, justement, ce qui vous a donné envie, Fatheon, pardon.
Non, Fatheon.
Fatheon, décidément. Fatheon, qu'est-ce qui vous a séduit justement dans le projet de la revue ?
Alors, d'abord, c'était effectivement le projet d'une revue pour une maison d'édition. C'est quand même une chose intéressante. Une revue, il y a une tradition d'ailleurs, hein, de maisons d'édition comme ça. Alors, des grandes maisons d'édition, hein, on n'en est pas là, mais je veux dire, en tout cas, pas encore, en tout cas. Mais voilà, il y a une tradition comme ça d'associer la revue à une maison d'édition parce que... Il y a plusieurs intérêts possibles. On est limité dans une maison d'édition. Il y a plein de choses qu'on voudrait publier et pour des raisons économiques, de temps, de travail, etc., forcément, on limite nos publications. Et la revue, bah, c'est la possibilité d'ouvrir comme ça un champ avec plein de possibilités, plein de voix qui peuvent s'exprimer. Alors il y a cet aspect-là qui est très intéressant pour nous. Et puis l'autre aspect, puisqu'on le verra dans cette revue, se côtoie des auteurs confirmés, effectivement, et puis des jeunes auteurs. Donc la revue, ça peut être aussi une sorte de banc d'essai, d'espace de test, et qui après, pour la maison d'édition, est une façon aussi de découvrir de nouveaux auteurs.
Et dans les textes, justement, qui vous ont particulièrement marqué dans ce que vous avez pu lire, ou
Ce
dans cet
serait,
éclectisme justement des
oui,
textes.
c'est l'éclectisme des textes, oui, bien sûr. Bah, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, je trouve, tout l'intérêt de cette revue et qui fait qu'elle est tout à fait en cohérence avec la maison d'édition. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui l'a lu et qui m'a fait un retour intéressant l'autre jour. Il m'a dit, finalement, c'est un cabinet de curiosité. Et je crois que c'est exactement ça, et c'est ce qui est intéressant. C'est un cabinet de curiosité où on peut piocher des choses, passer d'un jeune auteur qu'on ne connaît pas à un texte de Victor Hugo. Voilà, il y a des choses très diverses qui se côtoient, à la fois dans les thématiques, dans les types d'écriture, et aussi, voilà, et puis aussi j'ai envie de dire, dans la célébrité
Des auteurs.
des auteurs, voilà.
Merci beaucoup Bérangère.
Ben merci.
On
Au
va
revoir.
évoquer avec vous Pierre Landette. Justement, vous avez écrit des textes dans l'ouvrage, vous avez dirigé justement cet ouvrage, donc vous avez eu enfin, la moelle justement essentielle de tous ces textes. Et pourquoi justement cette revue s'appelle Phaéton?
Bon,
Qu'est-ce que ça veut dire?
déjà, il faut que je m'acquitte d'un devoir assez agréable, c'est celui de remercier d'abord la librairie Mola et toute l'équipe de cette maison qui accueille beaucoup d'auteurs et beaucoup d'ouvrages, mais je suis moi très très heureux d'être là ce soir. Et puis remercier également les gens qui ont permis à cette revue aujourd'hui d'exister et qui, comme contributeurs ou souscripteurs, je ne peux pas les citer tous là à l'instant, mais qui, comme souscripteurs ou contributeurs, écrivains dans la revue, ont permis à la revue, par les dons qu'ils ont faits, les dons financiers et intellectuels, à la revue d'exister. Donc je voudrais d'abord vraiment insister sur ces remerciements qui me semblent être vraiment très importants. Pourquoi Phaéton? Parce que l'idée, au départ, était celle d'un constat quant à l'appréhension des savoirs et l'accès à la connaissance. Et j'ai pensé depuis très longtemps qu'on était dans un monde un peu curieux, où on était pris dans un étau. Et d'un côté, il y avait, quant à l'apport de connaissances, une ultra-vulgarisation médiatique qui met tout sur le même niveau, la météo, l'accident, le drame et le résultat du match de football exactement sur le même niveau, et finalement qui laisse entendre qu'on peut tout savoir très facilement, mais qui nous laisse assez sec finalement quant à l'accès à la connaissance. Et puis de l'autre côté, on était dans ce monde où on privilégiait l'ultra-spécialisation. Et finalement, l'être curieux, pris dans cet étau, ne savait pas très bien comment s'y retrouver et comment avoir accès à une connaissance plurielle, diverse. Et c'était un peu le sens général de ce qui a permis à la revue de trouver le bon tempo, quoi. Voilà, c'était ça. Alors, je vais
Et là,
juste.
le sens du mot
Oui,
Phaéton.
je vais y venir. Mais dans la revue, on commence par un extrait d'un passage de Bernard de Fontenelle qui est intitulé « Puisque votre folie est si agréable ». Et à la fin, mais ça répond très bien à la question que tu viens de poser, le philosophe dit « Je ne sais pas qui vous a donné cette idée. Mais en vérité, il n'est pas trop commun de l'avoir. Assez de gens ont toujours dans la tête un faux merveilleux, enveloppé d'une obscurité qu'ils respectent. Ils n'admirent la nature que parce qu'ils la croient une espèce de magie où l'on n'entend rien. Et il est sûr qu'une chose est déshonorée auprès d'eux dès qu'elle peut être conçue. Mais si vous êtes bien disposé à entrer dans tout ce que je veux vous dire, je crois que je n'ai plus qu'à tirer un rideau et vous montrer le monde. Voilà ce que dit Fontenelle, et je trouve que ça initie bien ce qu'est Phaéton, et c'est pour ça qu'on a commencé par ce texte de Fontenelle qui est fondateur. Phaéton, c'est l'étoile d'Aphrodite, l'étoile Vénus en réalité, qui brille au matin et au soir. C'est la première lumière, la première étoile qui s'allume dans le ciel de nuit. Et c'est la dernière étoile qui s'éteint dans le ciel de nuit. Pour les anciens Grecs, c'était la lumière dans la nuit, le symbole de la connaissance, de la permanence des savoirs et de leur transmission. Voilà ce qu'est Phaéton, le Phaéton grec archaïque, et celui-là, c'est l'étoile d'Aphrodite. Et après, il y a un Phaéton un peu plus moderne, on va dire, dans l'histoire de la mythologie, plus récent en tout cas, qui est le Phaéton conducteur du char du soleil, qui a été le fils présomptueux d'Hélios et qui croyait qu'il pouvait conduire le char du soleil, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il était présomptueux. Il n'avait pas assez de savoir pour le faire, et donc on a mis un terme à sa présomption. Voilà pourquoi Phaéton. Donc en réalité, pour nous, c'était le mot qui portait au mieux l'idée que il y a toujours une permanence du savoir, il y a toujours une lumière allumée, même dans la plus profonde nuit.
C'est aussi un symbole fort, justement, de transmettre cette ouverture d'esprit par un livre, alors qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'image, on a accès à la connaissance aussi de manière vraiment illimitée sur Internet. C'est un symbole fort aussi, justement, que de poser toutes ces réflexions sur le papier dans une revue.
Oui, c'est à la fois la volonté d'exprimer que on peut avoir envie d'accéder à n'importe quel type de savoir, de connaissance. Donc on a conçu la revue de façon double. On a une première partie qu'on pourrait qualifier plutôt de... On présente des articles plutôt scientifiques. Et puis une deuxième partie qui est plutôt littéraire, composée de photographies, de nouvelles. Et au milieu, un cahier de poésie.
Pourquoi ce choix, justement ? C'est plutôt donc sciences humaines au départ. On a ce cahier de poésie. Pourquoi vous avez conçu justement la revue en trois parties comme ça, distinctes ?
Moi,
Pourquoi ces trois parties ?
Parce qu'on a considéré que ce qu'il y avait peut-être de central dans la connaissance, c'était la poésie. Ouvrir de façon centrale un livre et trouver un cahier de poésie, c'est un rythme qui était assez plaisant pour découvrir ce qui était de côté aussi, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est un livre qui se ferme et qui s'ouvre par la poésie, parce que la poésie est un aspect central de la transmission aussi, ce qu'on a peut-être un peu oublié.
Et vous avez des auteurs justement qui sont connus évidemment dans la littérature, mais aussi dans la société civile. Vous avez des avocats comme Gérard Boulanger, d'anciens ministres comme Michel Delaunay, qui était ministre des personnes âgées, qui est bordelaise. Vous avez, voilà, il y a des nouvelles, il y a des poésies. C'est vraiment éclectique justement, et c'est un choix qui est derrière, voilà, celui d'ouvrir vraiment l'esprit des gens à travers. C'est un ballon d'oxygène en plus en cette période. On a vécu des moments tragiques, c'est un ballon d'oxygène aussi, et un appel aux intellectuels justement à prendre davantage la parole aussi derrière cette revue.
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Et dans le choix des auteurs, Pierre, pourquoi ces auteurs justement ?
Ah ben, c'est-à-dire qu'en réalité, au départ, on a effectivement sollicité des gens... plus que d'autres, pour savoir s'ils étaient participatifs, s'ils avaient envie de participer à cette construction-là. Et on a eu des réponses toujours favorables. Donc on a des auteurs, effectivement, qui ont répondu très rapidement et avec brio, d'ailleurs, parce qu'il y a des articles particulièrement intéressants sur des sujets vraiment très différents, quoi.
Vous avez intitulé justement votre édito Révolution invisible. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette révolution invisible ?
Mais je pense qu'il faut se réapproprier le savoir et être curieux de tout. Parce que je pense que le seul vrai message de ça, c'est que l'acquisition des savoirs et leur transmission, c'est vraiment ça le seul gage d'intemporalité, finalement. C'est un peu ça l'idée générale de ce qu'est Phaéton lui-même, quoi.
Si on doit retenir justement un ou plusieurs messages, enfin, vous, ce qui vous a marqué dans les textes, ce que vous ne saviez pas avant justement de les lire, ce qui a été écrit par les auteurs, qu'est-ce qui vous a marqué dans leurs textes justement ?
Les textes des auteurs sont très différents parce qu'il y a des articles, tu viens de les citer, il y a une nouvelle de Michel Delaunay, qui écrit très bien, qui est une très belle nouvelle, et puis il y a un texte de Gérard Boulanger, mais il y a aussi des textes techniques, il y a une histoire du Parti communiste italien, une histoire sur la République européenne, il y a un texte sur Rimbaud et la synesthésie, il y a un texte d'un chercheur au CNRS qui est intitulé « L'éloge de la mollesse », et je vous laisse découvrir pourquoi. Je ne vais pas vous en parler parce que sinon votre curiosité ne va pas. Donc, il s'appelle l'éloge de la mollesse, bien que nous ne fassions pas de la mollesse une éloge particulière, mais c'est un texte scientifique sur la matière molle, c'est très intéressant. Donc, beaucoup de choses dans cette revue.
Très bien, Pierre, merci beaucoup. On va justement passer à la lecture avec Suzanne Robert, donc, qui était dans le comité de lecture, qui est journaliste à FIB, qui est aussi. Comédienne et qui va nous faire une lecture de plusieurs textes, de morceaux choisis de la revue Phaéton.
Voilà, moi j'ai pensé que le meilleur moyen de donner envie de lire, c'est de vous donner quelques extraits d'articles pour que vous ayez comme ça dans l'oreille un petit peu une tonalité de cette revue Phaéton.
Et tu commenceras par l'éloge de la mollesse.
Et je commence par l'éloge de la mollesse de Jacques Ling. Alors, lire un article scientifique n'est pas évident, mais je vais essayer de vous le transmettre le mieux possible. Quelle ressemblance y a-t-il entre une colle ultra-forte à prise rapide, un écran plat d'ordinateur, une pâte dentifrice, de la mayonnaise, une cellule souche en phase de différenciation, un mortier ciment à maçonner, une composante de mollesse ? Indispensable à la plasticité du vivant et primordial pour l'utilisation de nombreux produits de la vie courante. Nous rassemblons, sous le terme de matière molle, l'ensemble de ces états mal décrits par la physique classique et dont l'étude et la compréhension ont ouvert un champ scientifique considérable. Une école de pensée a même émergé de ces études, en partie issue des laboratoires français dans les années 1980 à 2000, redonnant de la noblesse à la mollesse. Maintenant mature, cette science de la matière molle ouvre la voie vers des applications remarquables telles que la réparation des tissus vivants et porte en son sein une partie de la promesse liée à la future révolution des nanotechnologies. Lors de ma formation universitaire en tant que physicien, écrit Jacques Ling, j'ai appris à comprendre et à caractériser quelques propriétés des principaux états de la matière, le gaz, le liquide, le solide. Par ailleurs, je savais par expérience que la transition entre ces états peut être induite par une élévation de la température. Sous l'effet d'une source de chaleur, la glace se liquéfie et l'eau liquide finira par s'évaporer sous forme de vapeur. Un équilibre entre la force des liaisons entre molécules et l'entropie, cette énigmatique composante qui quantifie le désordre, permet alors de fixer un état. Le gaz est pur désordre, dilué. Le solide est dense et ordonné. L'état liquide est un intermédiaire désordonné mais dense, stable, plus complexe à appréhender mais bien décrit depuis le 19e siècle. Pour ancrer dans nos esprits ce cadre conceptuel lentement établi par des générations de scientifiques talentueux, nos professeurs nous cachaient à dessein qu'il existe de nombreux états de la matière qui ne rentrent pas dans ce schéma rassurant car universel. Et c'est le cas de la matière molle. Considérons le cas d'une mayonnaise. Un mélange d'huile et de jaune d'œuf, de liquide apparemment banal. Agité énergiquement et avec conviction, le mélange donne cet état remarquable qui n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux évidemment. Pourtant, un signe de réussite en la matière est qu'une cuillère plantée dans la sauce se tiendra d'elle-même. N'est-ce pas là l'indice d'une matière solide ? Et pourtant encore, appuyer un peu sur le manche de la cuillère nous permettra d'étaler le condiment. La mayonnaise revêt alors un aspect liquide sous l'effet d'une force mécanique modeste à température constante. Nous avons donc ici affaire à un état de la matière différent, mi-liquide, mi-solide. Et les exemples sont très nombreux. Polymères, émulsions, fluides physiologiques, pétrole, boue, argile, pâte, cosmétiques. La matière molle est omniprésente dans notre vie quotidienne et mieux la décrire, mieux la comprendre, a permis de faire des améliorations significatives dans nombre de produits, mais aussi dans leur production et leur transport. Même si les industriels s'en réjouissent encore, précisons que la physique de la matière molle n'est pas uniquement dévouée à la croissance économique, optimisation des procédés, gains de productivité. Elle est avant tout une science qui a su trouver des points communs dans des objets fort différents et les unifier autour de quelques concepts fondateurs. La fragilité, le désordre, l'impact de l'architecture moléculaire sur les propriétés de la matière, etc., etc. Voilà le premier extrait.
Et maintenant, tu vas nous lire un extrait d'un article écrit par Jean-Rodolphe Vigne sur Rimbaud et la synesthésie. Jean-Rodolphe Vigne, qui est professeur de médecine à Bordeaux.
A, noir. E, blanc. I, rouge. O, bleu. U, vert. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Dans le poème Voyelles, mais aussi dans toute l'œuvre de Rimbaud, on note l'importance de la sensation colorée, donc visuelle. En dehors de l'évidence des influences de l'éducation, de la lecture, de l'expérience, bon nombre d'interprétations ont été proposées concernant l'exacerbation sensorielle dans les textes d'Arthur Rimbaud. Mais il est évident que l'association de lettres, des voyelles, à des couleurs, orienterait vers une description sémiologique de la synesthésie. Cette synesthésie serait alors un signe clinique d'un bon ou mauvais fonctionnement du cerveau, en tout cas d'une évidente activation de réseaux neuronaux dont un neurobiologiste pourrait décrire le fonctionnement. Rappelons la signification du mot synesthésie. Il vient du grec syn, union, et esthésis, sensibilité. Et il veut dire perception simultanée. Il s'agit donc d'une expérience subjective dans laquelle des perceptions relevant d'une modalité sensorielle sont régulièrement accompagnées de sensations relevant d'une autre modalité en l'absence de stimulation de cette dernière. La neurobiologie abonde en exemples de stimulation sensorielle multimodale. Des cas de synesthésie acquise ont été décrits, comme celui de la personne aveugle qui peut compenser la perte de la vue par un autre sens, le toucher. Et cela explique également l'émergence de talents artistiques à la suite de lésions cérébrales. Un patient privé de la parole après un accident vasculaire cérébral a pu développer un sifflement musical créatif. À partir des années 1960, il a été mis en évidence que le cerveau se modifiait sans cesse, à la fois dans sa structure et dans son fonctionnement, puisqu'en permanence, les neurones meurent, alors que par ailleurs, certaines régions du cerveau ont la capacité de produire des neurones indifférenciés qui pourront se spécialiser en fonction de la demande. Ainsi, notre cerveau, en constante modification, est capable de s'adapter à de nouvelles situations en créant un phénomène de sprouting. sprouting ou augmentation de l'arborisation neuronale au niveau des voies sensorielles fonctionnelles. Un phénomène permettant une captation d'informations plus importante et plus variée et une redistribution des informations vers le cerveau pour analyse et interprétation de ce stimulus. Et ces nouvelles conditions sont renforcées par la volonté et la répétition qui favorisent la mémorisation, activant ainsi les neurones impliqués dans cette chaîne de perception. La plupart des fonctions cérébrales s'organisent en réseaux de neurones reliés entre eux et se projetant sur des régions plus spécialisées qui vont traiter l'information et donner ou pas une réponse, consciente ou inconsciente, voire une mémorisation de certains événements. Et cette organisation est dite odotopique. Et elle prévaut actuellement sur une organisation compartimentée, localisationniste de notre cerveau. Et c'est une fenêtre ouverte sur l'étude du fonctionnement normal de notre cerveau, les relations entre le cerveau conscient et l'inconscient. Et nombre de recherches se poursuivent dans le domaine cognitif et plus généralement dans le domaine des neurosciences. C'est un espoir en termes d'application thérapeutique. Ainsi, on peut penser que la création est un processus mental, donc cérébral, intime, multifactoriel, qui dépend du monde extérieur aussi bien que de celui intérieur de l'artiste. Nous avons entrevu le rôle du cerveau et sa complexité à travers la synesthésie, qui ne correspond finalement qu'à une autre manière de percevoir. Et que Rimbaud fût synesthète ou pas, importe peu. S'il avait cette disposition, il a su s'en servir pour provoquer chez le lecteur suffisamment de ressenti pour que nous en parlions encore plus de 100 ans après. Et pour terminer son article, Jean-Rodolphe Vigne cite la lettre du voyant de Rimbaud. Je vous en dis quelques mots. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Voilà, quelques extraits.
Merci de cette lecture, Suzanne. Et dans la revue, dans cette première partie qui est consacrée aux sciences humaines, vous trouverez un article de différents professeurs, de madame le professeur Berguignan, qui est professeur d'économie. Du professeur Carlos Alves, qui est professeur de droit et qui a écrit un article sur l'environnement. Et également du professeur Giudicelli, qui a écrit un article sur une esquisse d'une histoire du Parti communiste italien. Et ensuite, toujours dans cette première partie, un article sur la prise en charge du risque de dépendance des personnes handicapées par madame le professeur Maud Asselin, qui dirige l'Institut des assurances, du droit des assurances. Voilà pour la présentation générale de cette première partie de Phaéton, avant d'ouvrir, partie centrale, le cahier de poésie. Cahier de poésie qui est marqué, graphiquement parlant, par le cahier bleu central que vous découvrirez et qui est un cahier de poésie double. C'est un cahier de poésie dont la première partie est une partie consacrée à l'engagement, une deuxième partie qui est intitulée Merle blanc, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des raretés de poètes d'aujourd'hui qui nous ont confié leurs textes. Et Suzanne, tu vas nous lire d'abord dans cette première partie un texte de Victor Hugo, un extrait des Orientales, qui est L'enfant grec.
Oui. Pour Hugo, chanter la liberté, c'est chanter la Grèce éternelle, libre et rebelle. Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kio qu'ombrageaient les charmilles, Kio qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un cœur dansant de jeune fille. Tout est désert. Mais non, seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux. Hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans la rasure de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu, bel enfant ? Que te faut-il donner pour attacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent et partent autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule ? Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales ? Que veux-tu ? Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux ? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Maintenant, un poème tout à fait contemporain. Un coup de vent a forcé le figuier, de Florence Vanoli. Un coup de vent a forcé le figuier, et la branche où Dieu s'est pendu a cassé. J'ai traversé un village par la rue du dehors, sans savoir que tu étais là, dans la rue d'à côté. Poème chiffonné sur la bière et la fumée, de langue à langue, vite, palpant la vie plus que le mot, en remontant la rue intérieure, j'ai reconnu une porte mal fermée, et ton nom est entré.
Florence Vanoli a récemment écrit une magnifique pièce de théâtre. Et je ne sais pas si elle va être rejouée, cette pièce, mais Florence Vanoli, elle écrit vraiment particulièrement bien. Et moi, j'adore sa poésie, qui est vraiment très forte. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir la publier dans Phaéton. Alors, on a beaucoup d'autres personnes qu'on a publiées dans cette partie qu'on appelle Merle Blanc. Et donc, c'était pour dire que cette partie, Merle Blanc, est une partie libre où on publie vraiment des auteurs qui nous envoient des textes et qu'on choisit. Et
parfois, les recueils sont déjà publiés, comme dans le cas de Florence Vanoli. Voilà. D'ailleurs, ces recueils, vous pouvez les trouver chez Mola.
Et donc, c'était un extrait de...
De l'oiseau veuve.
Hier l'oiseau veuve.
Et il y a d'autres textes de poètes déjà publiés. Il n'y a pas que des gens qui n'ont pas publié et qui nous ont fait la gentillesse de nous ont autorisé à publier certains de leurs textes. Et pour finir, pour ne pas vous ennuyer trop longtemps, on va finir par un rayon de soleil. On en a besoin en ce moment. Et Rayon de soleil est un inédit, c'est une courte nouvelle de Anne-Laure Boulanger. Je me demande depuis longtemps si j'ai une madeleine qui peut me replonger loin en arrière. Je sais aujourd'hui que ma vie en est peuplée, depuis le jour où je me suis littéralement figée dans ma chambre. J'ai compris que le rayon de soleil à cet instant-là en était la cause. Juste un rayon de soleil, d'une intensité identique à celle que j'avais déjà perçue autrefois. Ma madeleine est donc une lumière. Elle se loge dans un rayon de soleil particulier, naissant dans une salle de bain HLM, une bouteille de Vigor orange vide sur le rebord de la baignoire elle-même pleine de mousse. Je suis dans l'eau et ma mère entre pour coiffer ses longs cheveux. Elle est à côté de moi. Je n'existe pas. Elle regarde sa tête dans le miroir sans me voir. Elle s'applique à lisser impeccablement sa chevelure. Je remplis et je vide la bouteille orange. Je suis heureuse et seule. Ma mère est sereine et n'a pas besoin de me surveiller. Elle me laisse à mon jeu préféré, celui qui me met en présence de mon objet merveilleux favori, celui de la publicité dans laquelle un baril de produits nettoyants industriels dangereux devient magiquement la petite bouteille au service de vos sols et que j'ai réussi à rendre totalement inoffensive en la faisant entrer dans mon bain pour faire des bulles. Je suis fascinée par l'eau qui se déverse du goulot. et ma mère est intriguée par le temps que je passe à remplir et à vider cette bouteille. Elle trempe sa main dans l'eau. Elle est trop tiède. Je suis d'accord. Elle me tend une serviette. Je me lève. Elle me frotte pour me sécher. Elle est la seule adulte qui sait doser sa force lorsqu'elle m'approche. Les adultes sont des brutes, mais je leur pardonne leurs gestes qui régulièrement m'arrachent les bras lorsqu'ils me soulèvent. Je sais qu'ils font cela pour me témoigner maladroitement leur affection, alors ça va. Mais ce qu'ils ne savaient pas alors, ces grands-là, c'est que toute leur marque d'affection n'était rien en comparaison de ce rayon de soleil naissant qui nous caressait et nous enveloppait, ma mère et moi, pour nous réunir tendrement dans une douce intimité. Ce genre de souvenirs m'arrête net. Ils reviennent souvent en silence pour ne jamais se taire. Je les contemple comme on utiliserait un projecteur pour des films de 8 mm. J'aime sentir en solitaire cette douce douleur du souvenir, cette nostalgie d'un passé que je ne revivrai jamais. Je ne suis pas mélancolique. Je ne souffre pas vraiment. J'attends juste le prochain rayon de soleil.
Merci beaucoup, Suzanne. Par votre ton, par votre voix, vous avez capté l'attention de la salle. Ça fait plaisir à voir, justement. Vous nous avez véritablement plongé dans la revue. On va enchaîner justement avec vous, Pierre, sur cette notion d'engagement qui est d'actualité. Mais pourquoi vous avez fait ce choix justement d'avoir des poèmes sur le thème de l'engagement à l'époque ?
Moi, je pense que c'était quelque chose qui est... Enfin, déjà, il fallait trouver pour cette partie patrimoniale du cahier de poésie, il fallait trouver un thème. Et je trouvais que vraiment cette thématique de l'engagement... de l'auteur, du poète ou du héros dans le poème ou du personnage dans le texte, cette notion d'engagement, elle était pour moi presque comme une définition, une signature, quelque chose de fort, d'axial, de central, de nécessaire. Et je pensais commencer un numéro 1 par cette thématique, elle était elle est apparue comme une évidence pour moi et pour les autres, hein, mais c'est comme ça que c'est apparu. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important de s'engager dans tout ce qu'on fait, de prendre la mesure et de prendre part.
Et on voit justement l'importance de la culture pour résoudre, entre guillemets, le problème du djihadisme aujourd'hui, justement. Ça passe par autre chose que faire la guerre.
Oui, de tous les drames, tous les drames possibles. Mais enfin, l'engagement, c'est une histoire permanente, l'engagement, y compris pour l'acquisition des savoirs et pour leur transmission. C'est finalement ça qui est le message central de Phaéton, de la revue Phaéton.
C'est vrai qu'il y a des articles qui sont très spécialisés, qu'on a du mal à lire, mais ils donnent une idée. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'article sur la synesthésie, moi, j'en ai lu que quelques extraits, il y a des passages entiers que je ne comprends pas. Mais il en ressort quelque chose, une envie de savoir, où on se dit, tiens, il y a des gens qui font des recherches sur le cerveau, c'est étonnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est qu'il réussit à nous faire entrer dans une chose qu'on ne peut pas comprendre, mais tout de même, on en a quelques échos et quelque chose. Et relié à Rimbaud, j'ai trouvé ça magnifique, moi. Et je trouve que c'est un des articles, c'est pas pour... Il faut pas glorifier plus un article que l'autre, mais je dis, moi, mes sensations, puisque je suis plus du côté de la lecture et de l'artistique, je trouve que c'est magnifique de pouvoir, à propos de Rimbaud, de se servir de quelque chose pour nous amener dans la neurobiologie dont on ne comprend rien. Et puis, l'article sur l'éloge de la mollesse, il est bourré d'humour. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pareil, on décroche, on se dit, oh là, les cellules, machin et tout. Mais n'empêche, il nous parle de la mayonnaise, quoi. Et il nous parle de tas de choses très concrètes. Et ça, je trouve ça, c'est qu'une revue comme ça existe, ça me plaît.
Merci beaucoup, Suzanne.
Je voudrais juste dire que dans cette deuxième partie de la revue... vous y trouverez un article sur Léo Ferré de Jean-Michel Devesa. Une courte, trop courte histoire du mime, avec des photos du mime Marceau, une courte histoire du mime par Madame Sainton, qui est une passionnée du mime, avec des photographies inédites du mime Marceau prises par Libor Cyr en 1967. Vous y trouverez également un article assez brillant qui analyse très finement un autre texte sur l'engagement, mais qui est Göttingen, la chanson Göttingen de Barbara, avec une photo inédite de Barbara prise dans les années 60 par un photographe polonais, une photo qui n'est jamais sortie nulle part, où ce photographe polonais présente Barbara de façon extrêmement particulière. Enfin, ce n'est pas du tout la femme en noir qu'on connaît. Et puis, un très beau dessin, un très beau collage de Cathy Cheng et un très beau dessin de moustique. Ça, c'est pour nous piquer. De Salima Arbani, qui est une artiste marocaine brillante. Voilà pour la partie art et littérature. Et ensuite, on a publié dans les nouvelles une nouvelle de Maria Velo da Costa, la nouvelle de Anne-Laure Boulanger que Suzanne vient de lire, une nouvelle de Vincent Clédel, de Brigitte Comar, et je ne veux oublier personne, non, je n'ai oublié personne.
Merci pour cette présentation exhaustive. Maintenant,
merci mille fois d'être venu pour cette présentation. J'espère que vous apprécierez la revue Feuilleton et bonne lecture. Alors, voilà. Merci à vous. Merci.